Europe 1. Heures sur Europe 1.
Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Bonjour à tous, bienvenue dans Historiquement Vôtre, l'émission qui chaque après-midi vous raconte l'histoire sans se la raconter, à l'image de mon illustre mais néanmoins modeste comparse. Bonjour Stéphane Bern.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous. Chaque après-midi, on part à la rencontre de trois personnages issus d'époques différentes mais qui ont un point commun. Aujourd'hui, celui d'être des auteurs chers aux enfants.
Oui, alors, je ne vous cache pas, chers auditeurs, qu'à la base, je n'avais pas compris le thème que me proposait Stéphane. Il faut dire que l'indice qu'il m'avait donné en conférence de rédaction pour me mettre sur la piste, c'était d'arriver en chantant...
Tchou, 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 ils s'amusent comme des petits fous.
J'ai tout de suite dit, on fait une spéciale sur les pervers qui font la sortie des écoles.
Oh non.
Stéphane m'a dit, non, une spéciale sur les auteurs pour les petits. Ok Stéphane, si jamais vous croisez des enfants, ne leur chantez jamais tchou, tchou, le petit train, je vous assure, c'est très anxiogène.
Eux ne chantaient pas, mais ils écrivaient. Des contes et des romans présents encore aujourd'hui dans toutes les chambres des enfants. Je vous parlerai de Charles Perrault qui, après avoir officié à la cour du roi Louis XIV, a rendu des contes parmi lesquels Le Petit Poucet, Le Petit Chaperon Rouge, Cendrillon. Puis, je vous raconterai le destin de la comtesse de Ségur qui squatte les bibliothèques roses avec ses héroïnes qui ont quelques malheurs comme Sophie et comme elle aussi, vous verrez. Quant à vous, Mathieu, vous nous parlerez d'une BD qui a fait le bonheur des enfants au premier degré et qui fait maintenant le bonheur des parents au second, voire au troisième.
Exactement. Aujourd'hui, je vous parle du phénomène Martine. Nos grands-parents lisaient très sérieusement Martine à la plage, Martine prend l'avion. Aujourd'hui, la franchise a connu un nouvel envol grâce à la parodie de cette brave Martine, parodie souvent potache, parfois même trash, comme cette couverture de Martine qui fait la cuisine où on voit une petite fille émerveillée devant le contenu d'une casserole avec ce nouveau titre « Martine a retrouvé son lapin ».
Et avec nous, comme chaque jour, elle nous entraîne dans l'intimité des grandes ce monde, Clémentine Portier-Kaltenbach.
Bonjour, oui, bonjour messieurs. Bonjour, mon Clémentine. Sujet du jour sera, mais traité de façon légère, ne vous inquiétez pas, c'est possible, l'inceste dans l'histoire, et en particulier dans l'Égypte antique, parce que j'ai bien remarqué Stéphane, oui. Ça c'était un sujet qui vous faisait toujours bondir.
Oui. L'inceste rieur au programme cet après-midi, non, historiquement.
C'est difficile, hein, là je mériterais une prime.
Et je ne sais pas comment on va faire la transition avec David.
C'est pour ça que je vous la laisse.
Ah pardon. Ouais. Avec David Castello-Lopez. De quoi vous êtes d'un...
Oui, ben, en fait, d'un objet qui, un peu comme Martine, dont vous parliez à l'instant, oui. Fait un petit peu le pont entre l'enfance et l'âge adulte. C'est un objet qu'on appelle le canard en plastique qui flotte oui. sur les baignoires,
oula.
Mais qui également oui, qui peut servir à des gens tout seuls pour s'amuser.
Et non, plutôt des adultes.
Voilà, exactement. Effectivement.
Olivier Pouls,
vous pour attirer les enfants.
Olivier Pouls, vous nous parlez et moi aussi de quelque chose qui permet d'attirer les enfants.
Exactement, comme dirait Jacques Brel, je vous ai apporté des bonbons, hein, parce que les fleurs, c'est périssable.
Et les bonbons, c'est tellement bon.
Vous allez nous apprendre à faire des bonbons aussi
des petits caramels au beurre salé, par exemple. Oui. C'est le roi des bonbons, ça.
Très bien.
On est quand même à 17 sous-entendus pédophiles.
On a commencé très fort, effectivement, mais j'ai déjà 17 SMS, ça commence très fort. Enfin, beaucoup de choses, les amis, ont été écrites et dites concernant les dernières éditions du quiz Bern to be alive. Selon de graves accusations, pour enrayer le cycle insolent de la win dans lequel jubilait Stéphane, les dés auraient été pipés en faveur de Clémentine sur les 4 dernières éditions. Mmh. Et oui, même notre émission n'est pas épargnée par les relents nauséabonds du clompotisme. Qui l'emportera aujourd'hui? Assisterons-nous à un duel à la loyale entre Stéphane et Clémentine? Ou bien notre émission sera-t-elle encore le théâtre de sombres magouilles? Vous le saurez vers 5h-10. Mais pour l'heure, découvrons notre premier auteur qui aimait les enfants.
Chou, chou,
non, Stéphane,
chou.
Par pitié, notre premier auteur profond de l'histoire est un des plus connus aussi, un certain Charles Perrault.
Europe 1, 16h-18h, historiquement vôtre. Stéphane Bern et Mathieu Noël. Le récit.
On le sait peu, mais Le Petit Poucet est un biopic. Lorsqu'il était enfant, ses parents, qui n'arrivaient plus à payer l'impôt sur la fortune, n'ont pas eu d'autre choix que de perdre Stéphane Bern en forêt royale de Chantilly.
Oh,
et heureusement que Stéphane a eu la présence d'esprit de semer des petits grains de caviar pour retrouver son chemin.
Sans ça, mangé par les bêtes.
Il était perdu. Charles Perrault a juste remplacé le caviar par des cailloux pour rendre son conte plus populaire. C'est son histoire que nous raconte Stéphane cet après-midi.
Sans vouloir vous décevoir, Mathieu, c'est bien plus ancien. Pour découvrir le destin du célèbre conteur, il nous faut replonger dans le grand siècle, le 17e donc. Nous voilà dans un royaume de France au sommet de sa puissance. Depuis la cour de Versailles, Louis XIV règne en champion de l'absolutisme sur la plus grande monarchie d'Europe. Le 27 janvier 1687, quand notre récit commence, le roi Soleil est en pleine convalescence. C'est qu'il a connu quelques pépins de santé. Et oui, le roi souffrant d'une horrible fistule, vous savez ce que c'est, nous en, on a déjà parlé
oui,
ici.
Oui, j'ai eu beaucoup de détails avec vous.
Son postérieur royal a dû subir une intervention chirurgicale. Pendant cette dangereuse opération, tout le royaume a retenu son souffle. Mais oui, oui. Dieu soit loué, la science l'a emporté. Bientôt, Louis XIV pourra à nouveau monter à cheval d'un air triomphant. Pour fêter cela, en ce même jour d'hiver, un homme quitte son fauteuil pour se présenter face à ses pairs. Imaginez donc une assemblée de 40 gentilshommes qui arborent des perruques poudrées et un style baroque à la pointe de la mode. Ce qui les réunit tous, c'est la défense de la langue. Nul doute n'est permis, nous sommes bien à l'Académie française. L'homme qui va prendre la parole, c'est bien sûr celui qui nous intéresse cet après-midi, Charles Perrault. Il siège parmi les immortels depuis plus de 15 ans et ce jour-là, son intervention risque d'être accueillie avec grand fracas. Le voilà qui se lance dans la déclamation d'un poème qu'il a lui-même signé, mais dès les premiers vers, le siècle de Louis le Grand, comme il s'appelle, ravive une grande querelle littéraire. Écoutez plutôt. La belle antiquité fut toujours vénérable, mais je ne crus jamais qu'elle fût adorable. Je vois les anciens plier les genoux, ils sont grands, il est vrai, mais hommes comme nous. Et l'on peut comparer sans crainte d'être injuste le siècle de Louis au beau siècle d'Auguste. Ces jolies rimes peuvent vous sembler inoffensives, pourtant, à ces mots, le locataire du fauteuil numéro 1 de l'Académie française manque de s'étouffer. Et Boileau n'est pas le seul. Racine, La Bruyère ou Bossuet protestent avec lui. Il faut dire qu'à l'époque, ces hommes de lettres sont les fidèles représentants d'une doctrine bien ancrée. Dans ce qu'on appelle la querelle des anciens et des modernes, ils s'inscrivent en digne héritier des auteurs et philosophes de l'Antiquité. Alors, ce poème, ce n'est ni plus ni moins qu'une provocation honteuse. Vous l'aurez compris, Charles Perrault, lui aussi, a choisi son camp, et c'est l'équipe adverse. Il s'impose même comme le chef de file des modernes. Pour le conteur, ce grand siècle plein de progrès en tout genre n'a rien à envier à l'Antiquité. Quant au prestige de Louis XIV, il est similaire, sinon supérieur, à celui d'Auguste ou de Périclès. En fait, son parcours professionnel a sans doute contribué à forger ses convictions. Car on le sait moins, mais Charles Perrault a pendant 20 ans œuvré aux côtés du roi. En tant que contrôleur des bâtiments, il a largement pris part au rayonnement de Versailles et de la culture. Mais avec la mort de son patron, l'infatigable Colbert, vient le temps de la disgrâce. Voilà qu'on le somme de quitter Versailles par le premier carrosse. Alors forcé à une retraite anticipée, Perrault n'a plus qu'à se consacrer à l'écriture. Et puisqu'on l'a élevé au rang d'immortel, il s'en donne à cœur joie. Rien de plus amusant que de moquer les pourfendeurs de la modernité dans plusieurs textes facétieux. À l'heure de ces gros escarmouches et autres prises de bec entre gens lettrés, vont naître les contes de fées que tous les enfants connaissent depuis lors. Vous ne voyez pas le rapport ?
Pas encore, non ?
Eh bien, laissez-moi vous l'expliquer. 10 ans après sa fameuse prise de parole à l'Académie, Charles Perrault fait paraître « Les contes de ma mère Loi ». C'est un recueil de 8 contes parmi lesquels les célébrissimes histoires du petit chaperon rouge, du chat botté ou du petit pousset. Mais ne l'oublions pas, ces héros ne sont pas tout droit sortis de l'imagination de Perrault. Cendrillon, par exemple, dont on se rappelle l'atroce belle-mère, la citrouille qui se transforme en carrosse ou la pantoufle de verre, eh bien, elle existe dans d'innombrables versions venues des 5 continents. Charles Perrault reprend en fait la tradition orale des contes naïfs racontés par les nourrices depuis la nuit des temps. Lui-même ne compte plus les soirées autour de l'âtre à émerveiller sa marmaille avec toutes ses fables. Dans l'esprit de Charles Perrault, ses contes et leur morale sont destinés aux enfants, mais pas seulement. Des lecteurs plus âgés, suffisamment au fait des enjeux de leur siècle, sauront déchiffrer sans peine les doubles sens contenus dans chaque histoire. Car si les héros évoluent dans des mondes peuplés de grands méchants loups, d'ogres effrayants, de marâtres odieuses, mais aussi de gentilles fées, de jeunes filles en danger, et bien sûr de princes charmants, ces personnages cachent très souvent des allégories à peine masquées. Mais quel mystère se cache donc derrière les histoires faussement naïves de Charles Perrault ? Allez, on éteint et on reprendra demain.
Ça m'inquiète toujours un peu quand vous dites on éteint, mais j'ai envie de connaître la fin.
Bon d'accord, je reviens.
Europe 1, 16h-18h, historiquement vôtre. Stéphane Bern et Mathieu Noël. Le récit.
Il était une fois des auteurs pour les petits et les grands aussi. C'est le thème de notre émission cet après-midi. Stéphane, vous nous racontez le destin de Charles Perrault et de ses célèbres contes dans lesquels il s'amusait à distiller des sous-entendus pour agacer ses adversaires littéraires.
Oui, Mathieu, prenons l'exemple de Peau d'âne qui commence ainsi. Il était une fois un roi, le plus grand qui fût sur la terre, aimable en paix, terrible en guerre, seul enfin comparable à soi. Ses voisins le craignaient, ses états étaient calmes, et l'on voyait de toutes parts fleurir à l'ombre de ses palmes et les vertus et les beaux-arts. Une référence évidente à l'extraordinaire modernité qui caractérise le règne de Louis XIV, selon Perrault. Il faut tout de même ajouter que dans Peau d'âne, le roi est un veuf éploré qui se verrait bien convolé en seconde noce avec sa propre fille pour remplacer sa défunte épouse.
Un peu limite, ça, quand même, Stéphane.
Peau d'âne, qui ne veut certainement pas épouser son père, lui assure qu'elle le fera s'il lui offre les plus belles robes jamais cousues. Elle est certaine que sa demande est irréalisable. Mais, manque de chance, le roi réplique avec des robes de la couleur du temps, de la lune, puis du soleil, soit des merveilles de haute couture qui dépassent l'entendement. Une référence habile à ce qu'est devenu le haut artisanat du royaume sous Louis XIV, c'est-à-dire l'atelier le plus en vogue d'Europe. Et pour les contemporains éclairés de Charles Perrault, une autre lecture, celle de La Belle au bois dormant, est une véritable leçon d'histoire récente. La Belle princesse, c'est une allégorie du royaume pendant la période de la Renaissance. Son sommeil d'un siècle, il représente les troubles qui suivent, c'est-à-dire les guerres de religion et l'infécondité des Valois. L'arrivée du prince, enfin, c'est l'irruption salvatrice du bon roi Henri ou du grand Louis XIV, évidemment. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Puisqu'une ogresse affamée menace de dévorer l'héroïne, et là encore, c'est une allusion à un épisode qui a ébranlé le royaume, la fronde des princes, quand Louis XIV était enfant. En référence à cette période, il se peut d'ailleurs que Perrault ait adressé un clin d'œil à son mentor, j'ai nommé Colbert, dans La Barbe Bleue. « Anne, ma sœur, ne vois-tu rien venir ?» lance la jeune épouse qui attend ses frères alors qu'elle risque le féminicide. C'est qu'en déverrouillant la porte interdite, elle a découvert ce que Barbe Bleue faisait de ses épouses. Si la fratrie ne réplique pas, elle connaîtra le même sort. Anne, pendant la fronde, c'est Anne d'Autriche, la régente, la mère du roi, qui appelle Mazarin et Colbert à la rescousse avant qu'ils arrivent et contre les ogres qui menacent les Bourbons. Mais toutes ces références élogieuses au règne du roi Soleil ne sont pas les uniques sous-entendus que le lecteur adulte a le plaisir de déchiffrer. On notera pour terminer cette petite phrase glissée dans La Belle au bois dormant qui suit le dénouement nuptial du conte. La Belle et son prince dormirent peu. La princesse n'en avait pas grand besoin.
Ça m'avait échappé à l'époque,
à
ça.
À vous de deviner à quoi ces deux-là passent la nuit. Un indice, quand même. Ils eurent beaucoup d'enfants.
Merci pour cet indice, Stéphane. J'aurais du mal à le déchiffrer, sinon.
Europe 1, historiquement vôtre.
Pour continuer à parler de Charles Perrault et de ses contes, nous sommes avec l'historienne et romancière Patricia Bouchenaud-Deschin. Bonjour.
Bonjour, Mathieu.
Bonjour, Patricia Bouchenaud-Deschin. Vous êtes l'auteur d'une magnifique biographie consacrée à Charles Perrault chez Fayard. Vous vous souvenez du conte de Perrault que vous avez lu, qu'on vous a lu en premier, celui le premier qui vous est marqué?
Alors, le premier qui m'est marqué, c'est certainement Le Petit Poucé, avec cette image absolument terrifiante de l'ogre, avec son grand couteau, les 7 petits-enfants, avec leurs 7 bonnets. En fait, ce sont les petites filles de l'ogre, et le poucé très malin a enlevé les couronnes, les a remplacées par un bonnet, et il tranche la gorge de ses enfants. C'est certainement l'image qui m'a le plus marqué.
Ouais. Moi, chaque fois qu'on allait en forêt avec mes parents ensuite, j'avais peur. Hein. Je m'accrochais à eux pour pas qu'ils me laissent.
Et on mettait des petits cailloux dans les poches.
Évidemment.
Moi, j'avais peur du grand méchant loup. Mais bon.
C'est une autre histoire, Stéphane.
Alors, c'est une autre histoire.
On connaît tous le nom de Perrault, on connaît ses contes, mais j'ai l'impression qu'on connaissait rien de sa vie. Stéphane l'a dit, il a été académicien, contrôleur des bâtiments à la cour de Louis XIV. Pourquoi l'histoire a retenu que sa vie d'après, finalement?
Alors, certainement pour une raison très simple, c'est que l'histoire s'écrit par les vainqueurs. Et dans l'histoire de Perrault, les vainqueurs portent le nom de ses deux ennemis, qui sont historiographes du roi. Un historiographe, c'est quelqu'un qui écrit l'histoire du souverain en place. Et quand, pas de chance, ce sont vos ennemis, ce sont Racine et Boileau, qui ont une vraie raison de détester Charles Perrault, eh bien, évidemment, ils vont rayer, biffer le nom de Perrault dans l'histoire du règne, alors qu'elle est absolument essentielle.
Vous dites, ils ont une vraie raison.
Ah oui, alors, on va rentrer dans des détails très, très intimes, notamment Boileau. Boileau a, une haine féroce contre Perrault pour une raison simple. Perrault a un frère qui était médecin, Claude l'architecte, la fameuse colonnade, etc. Et Claude, médecin, une de ses premières opérations qu'il ait faites, c'est sur Boileau, jeune, et qui a rendu Boileau impuissant. Et donc, toute l'histoire, toute cette glorieuse querelle des anciens et des modernes, et qui va affronter Boileau et Perrault, l'un dans le camp des anciens, Boileau, Perrault dans le camp des modernes, eh bien, c'est une haine personnelle.
C'est pas sa faute, c'est son frère.
C'est son frère, mais ça s'est reporté, qu'est-ce que vous voulez, c'est comme ça. Et cette haine des Perrault, parce qu'ils formaient un bloc très sympathique, mais très puissant, eh bien, c'est cette haine qui va motiver, en fait, cette éviction de l'histoire de Perrault.
Quel homme était-il finalement, Perrault? On connaît ses contes, mais on connaît vraiment pas l'homme. Vous parlez dans votre biographie d'un homme complexe, fantasque, hors norme, indépendant d'esprit. Est-ce que vous avez réussi à cerner qui il était vraiment, Charles Perrault?
C'est un personnage passionnant parce que c'est un personnage très 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 complet et complexe. Il est issu d'une famille extrêmement brillante. C'est un esprit pétillant. Il part dans tous les sens. Il écrit contre le pouvoir, contre Mazarin. Puis se dit quand même à un certain âge, il faut quand même devenir quelque chose. Donc toute la fratrie se met en route pour se mettre en place. Et Perrault, lui, va choisir donc d'écrire à la gloire de Louis XIV, va être repéré et va rentrer dans le giron. Ce qui est absolument sympathique avec Perrault, c'est le fait qu'à un moment donné, il va péter les plombs, faire une sorte de burn-out, ouais. Et tout à coup, il va accepter, il fait partie de ces personnages qui refusent le système. Et ça, ça fait partie de ces contradictions. C'est un personnage qui, à la fois...
Et puis, il n'en veut pas, Louis. Il se fait quand même évincer du pouvoir.
Il se fait dégager de Versailles.
Colbert, après la fin de Colbert, il se fait virer. Il n'en veut pas, Louis XIV.
Non, parce que lui-même a un peu provoqué sa chute, hein. Par un autre poème absolument incroyable. Et puis Colbert avait progressivement le pouvoir. Et puis c'est plus ça qui l'intéresse. Donc il va l'accepter tout le temps en le regrettant. Il pensait pas que ça irait si loin. En fait, il voulait quitter le ministère puisque c'était le ministre de la culture de l'époque. Oui. C'est lui les grands chantiers, le Louvre, Versailles, etc. Ce sont toutes les académies, etc. Mais il pensait quand même qu'il continuerait à faire partie de ce Sénat, qui ce qu'on appelait modestement la petite académie, mais qui a écrit la gloire du roi dans tous les bâtiments qui ont pu être construits à cette époque-là. Il pensait pas qu'il perdrait ce pouvoir-là. Et c'est là où, du coup, il va rebondir.
Il va rebondir sans se venger dans les
contes.
Non,
et il rebondit par l'humour. C'est quelqu'un qui est drôle. C'est un personnage qui est très drôle. Juste un exemple, peut-être. C'est la naissance du premier petit-fils de Louis XIV, le grand dauphin. Il vient d'être viré, comme elle m'a le propre. Oui. Il a un hôtel particulier qui est juste à côté de Colbert. Tout Paris, toute la France donne des fêtes en l'honneur du grand dauphin. Lui, avant, organisait les fêtes pour le roi à Versailles, feu d'artifice, etc., etc. Eh bien, il va décider de donner un spectacle dans son hôtel particulier. Il fait monter devant les façades, des façades qu'on appelle en transparent, un feu d'artifice absolument incroyable. Ça s'appelle le banquet des dieux, avec un spectacle, un opéra. Et ce qui est absolument incroyable, c'est qu'il va jusqu'au bout, parce qu'il ne s'arrête jamais en chemin, de sa terrasse, il fait verser du vin qui descend dans les canalisations, dans les gouttières, et qui tombe sur le peuple. On ne sait pas si c'est du vin de Bourgogne. C'est quand même une histoire absolument incroyable. Ça fait partie de ce Perrault fantasque, drôle.
Il avait du bien, dites donc, pour avoir un hôtel particulier.
Il était assez modeste.
Il y a peu d'écrivains qui ont des hôtels particuliers dans Paris, quand même.
C'était pas un hôtel très grand, mais c'était très joli.
Ah bon. Ouais.
Pour revenir au conte dont on parlait, oui. Stéphane, vous avez dit que c'était beaucoup des reprises, des adaptations. Est-ce qu'il y a quand même des choses qu'il a imaginées, certaines histoires qui sont...
Alors, l'ensemble de ces contes sont... Il sait de toute cette imaginaire populaire qui existe depuis très très longtemps, pour certains jusqu'à l'Antiquité. Mais il y en a un que l'on aime particulièrement, c'est le petit chaperon rouge. Le petit chaperon rouge, c'est vraiment une invention de Perrault, à une période extrêmement précise. C'est au moment où il y a une recrudescence des loups. en France, et les loups sont actuellement, on a les petits sangliers qui traversent les villages, et bien à l'époque c'était les loups. Et alors quand on regarde les archives de l'époque, c'est absolument terrifiant, on voit que on enterrait des adultes et des enfants, dont il ne restait que le corps, et entre Paris et Versailles, ville la vraie à l'époque, j'ai retrouvé dans les archives, l'année même où il écrit son petit chaperon rouge, parmi ceux qui sont enterrés, on retrouve entre autres le visage d'une petite fille, dont il ne restait que du corps.
Pardon, pour revenir au petit chaperon rouge, maintenant les psychanalystes nous expliquent que la peur du loup, c'est l'amour, le sexe, en fait, etc. Est-ce que lui, il y pensait? Alors, ou c'est une relecture après des psychanalystes?
Alors, il y a une relecture des psychanalystes qui est allée très très loin, mais Perrault a une conclusion, parce que c'était des contes assortis d'une moralité. Lui-même avait une fille. Et donc, il y a « faites attention au loup », parce qu'on sortait, c'était dangereux, mais en même temps, la moralité s'adresse aux jeunes et aux jeunes filles. « Attention, le loup peut être un jeune homme ». Et c'est donc très...
Il y a toujours les prédateurs sont partout.
Les prédateurs sont partout,
exactement. En tout cas, et lui-même, à la fin, il se présente comme Barbe Bleue.
Perrault se présente comme Barbe Bleue?
Non, lui, il est le petit poussé. C'est vrai, d'abord.
Alors, lui est le petit poussé parce que c'est le septième d'une fratrie, oui, et ses jumeaux, etc. Donc, il se présente comme ça. Sa vie s'est un peu déroulée, à mon sens, véritablement, comme le marquis de Carabas, on est dans le Chaboté, qui met en scène le pouvoir du roi. C'est quelque chose d'absolument frappant. Quand on lit les contes, il y a des références sans cesse à sa propre œuvre. Par exemple, à Versailles, vous parliez de La Belle au Bois Dormant. Quand on arrive dans le château de la Belle au Bois Dormant, eh bien, c'est le château de Versailles. Oui. Donc, les références sont permanentes. Mais effectivement, la fin de l'histoire de Perrault,
c'est Barbe Bleue.
C'est un peu Barbe Bleue, mais on ne racontera pas toute l'histoire. On ne va pas spolier le livre. Hein, et on peut juste dire que, effectivement.
Il a commencé comme le petit poussé, il a fini comme Barbe Bleue.
Et c'est que la clé était faite. Donc c'est bien un conte de fées.
Merci beaucoup, Patricia Bouchot-Dessin.
Merci à vous.
Je rappelle le titre de votre biographie, Charles Perrault, qui est paru chez Fayard. Merci d'avoir été avec
nous. Merci.
Ici Europe 1.
16h-18h sur Europe 1. Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Historiquement vôtre vous raconte l'histoire sans se la raconter. Chaque jour, Clémentine Portier-Kaltenbach nous raconte des histoires dont elle seule a le secret. Et aujourd'hui, plus qu'un secret, un sujet ô combien difficile. Celui de l'inceste dans l'histoire que vous avez souhaité aborder avec la finesse.
J'ai souhaité vous faire plaisir. J'ai bien remarqué que Stéphane, les histoires de mariage en Égypte,
uniquement dans l'Égypte ancienne, quand c'est très loin dans le temps.
Ça vous fascine, mais c'est vrai que c'est une exception, c'est l'exception égyptienne, et il y a de quoi fasciner, hein. L'inceste, incestrum, impur, voilà ce que veut dire le mot inceste en latin. Et l'inceste désigne bien sûr une relation sexuelle entre membres de la même famille et soumise à un interdit. L'inceste, c'est le
dernier tabou.
Exactement.
Mais donc, c'était pas un interdit dans l'Égypte ancienne, ce qu'on
alors
disait.
Alors, justement, je viens de parler, si vous avez suivi, n'est-ce pas? Je viens de parler de l'exception égyptienne. L'exception égyptienne. Pourquoi cette exception égyptienne? Eh bien, parce que les dieux égyptiens eux-mêmes pratiquent l'inceste. Le couple phare du panthéon égyptien, c'est Isis et Osiris. Et Isis et Osiris, ils sont frères et sœurs. Et l'union de ces deux dieux symbolise le renouveau et la fertilité. Donc, c'est forcément un exemple à suivre. C'est l'exemple divin. Et comme le pharaon lui-même est un dieu, eh ben, lui aussi doit épouser sa sœur. Alors, évidemment...
Si on prend... notamment en Amérique, on pense que tout est dit dans la Bible. Adam et Ève sont ensemble, n'est-ce pas? Ils font des enfants. Et donc, les enfants, entre eux, ils vont se reproduire.
Ben de toute façon, il y a forcément, comme on descend tous de Charlemagne, et nous sommes tous le résultat.
Le fruit de l'inceste.
Nous sommes tous le résultat d'une gigantissime endogamie. Et regardez dans toutes les vous connaissez ça par cœur. Toutes les familles royales.
Non, mais attendez, ne me regardez pas comme ça
parce que vous maîtrisez tous les chaînons, toutes les relations familiales dans le quota européen où tout le monde se marie ensemble et où Marie-Thérèse et Louis XIV sont cousins germains. Oui. Mais on n'a pas du tout, évidemment, puis on n'a pas la même maîtrise de la génétique. Mais attendez, moi je suis en Égypte là, si vous voulez bien. Donc la personnalité une des plus connues de l'Égypte, naturellement Cléopâtre, issue de la dynastie des Ptolémées, dont le nom complet, je le rappelle au passage, est Cléopâtre VII Philopâtre. Pator, ce qui signifie qui aime son père, eh bien, avant de rencontrer César et Marc-Antoine, elle règne sur l'Égypte avec ses deux frères époux, Ptolémée XIII et Ptolémée XIV. Et rappelons qu'elle-même descendait d'une lignée de 12 incestes frères et sœurs successifs.
Mais, si je peux me permettre, aujourd'hui, avec la génétique, on voit que ça peut être très dangereux que le bébé risque de ne pas vivre.
Oui, mais alors, vous voyez, les connaissances en génétique à l'époque de Cléopâtre devaient malheureusement être un petit peu réduites. Mais, ce qui est étonnant, c'est que, au début, si vous voulez, sur la première forme d'inceste, les maladies récessives sont évitées. C'est comme les bâtards chez les chiens, c'est-à-dire que ça fait des espèces plus résistantes.
D'accord.
Et c'est après, c'est aux générations suivantes que ça commence à se gâter.
Mais elle était très belle.
En tout cas, elle n'était pas belle. On en a déjà parlé l'autre jour, parce que c'était une lagide avec un gros nez écrasé.
C'est
un autre problème. C'est une polémique entre nous. En tout cas, c'est ça qui est extraordinaire, c'est de penser que, ayant été le produit de tous ces incestes, elle était une femme aussi brillante, mais sans doute qu'il devait trimballer un certain nombre de maladies, Patrice. Alors, bon, en tout cas, entre pharaons, les pharaons ne vont pas se contenter de se marier entre frères et sœurs. Ils vont aussi se marier entre père et fils au XIVe siècle.
Ah oui, vous savez, entre père et fils.
Ah oui, vous savez, le célèbre pharaon monothéiste Akhenaton,
ah oui,
qui était marié avec à la sublime Néfertiti. Bon, alors, on ne sait pas si Néfertiti, elle disparaît tout d'un coup des écrans. Est-ce qu'elle est morte? Est-ce qu'elle a été évincée par sa propre sœur? En tout cas, Akhenaton épouse sa fille Méritaton, qu'elle a eue avec Néfertiti.
Elle a beaucoup de mérite.
Donc, si vous voulez, il y a en plus des études récentes qui montrent qu'il aurait une fille, non pas avec sa femme Néfertiti, ni avec sa fille Méritaton, mais avec sa propre sœur, qui était une épouse secondaire. Vous imaginez l'ambiance dans les repas de famille chez les Akhenaton entre toutes ces dames. Alors, Ramsès II, lui, là, il a fait encore mieux ou pire, de notre point de vue, c'est qu'il a, il a épousé deux de ses filles, Méritamon et Bentamat. Allons-y. Alors, le problème, c'est qu'évidemment, bien sûr, toute la société égyptienne se met à imiter les pratiques des pharaons. Et les chiffres devenaient absolument alarmants, parce qu'un quart des mariages en Égypte se concluaient entre frères et sœurs. En tout cas, l'empereur Dioclétien, lui, va publier un édit en disant « Maintenant, ça suffit, en Égypte, c'est terminé la pratique, on arrête de se marier entre frères et sœurs ». Et il était temps d'en finir avec cette tradition aberrante qui était unique au monde et qui avait des conséquences dramatiques. Mais si vous citez la Grèce antique, Zeus épouse sa sœur, Héra, c'est la sœur de Dieu. Le mythe d'Oedipe, qu'est-ce que c'est? C'est Oedipe qui tue son père, il ne sait pas que c'est son père, il tue sa mère Jocaste, il ne sait pas qu'elle est sa mère, il couche avec elle. Quand il le découvre, il se crève les yeux, sa mère se pend. C'est une façon de montrer que l'inceste est une catastrophe pour la société, que c'est pas possible. Mais l'inceste, il a existé.
Non, mais n'essayez pas de nous convaincre, nous sommes convaincus.
Bah, convaincus.
On dirait qu'elle défend.
Mais alors, oui, non, mais.
On dirait qu'il y a un sujet.
Non, mais si, un sujet, parce que regardez les Borgias, les Borgias étaient réputés pour leur.
C'était il y a longtemps,
bien sûr. L'inceste est pénalisé, mais longtemps ça a été possible. Hein.
C'est bien triste ce que vous nous racontez sur l'Égypte ancienne.
La fin du mariage entre frères et sœurs.
Non. Il s'est trahi.
Non.
Il a tenu toute la chronique.
La parcellisation du patrimoine.
Ne rigolons pas avec ces sujets qui sont très graves.
Oui, mais enfin qui sont tranchés depuis longtemps quand même. Oui. Hein. L'inceste. Pas bien. Merci beaucoup Clémentine Portier-Kaltenbach. Vous restez avec nous pour le quiz, qui n'est pas une promenade de santé pour vous. Stéphane, vous avez prévenu à l'époque où vous l'humiliez quotidiennement.
Tout vient à point pour qui sait attendre. Gare à la morsure d'un chien enragé.
Même quand le chien en question est un frêle caniche. À tout de suite.
16h-18h sur Europe 1, Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
L'heure du mano à mano légendaire a sonné. Oh. Jadis, combat déséquilibré et disons-le, perdu d'avance pour Stéphane. Depuis quelques semaines maintenant, Clémentine découvre le goût amer de la défaite. Son problème, en histoire, elle déchire, en géographie, un peu moins. Comme elle nous l'a prouvé en s'exclamant.
J'ai gagné sur les bordels de campagne à Ouagadougou, non? Ah non, c'était en Guyane.
Jouons à Burn to be Alive. Notre fameux quiz. Stéphane, première question, elle est pour vous. Attention, ça, vous êtes censé connaître la réponse. Voilà. L'Union européenne finance actuellement un projet à hauteur de 2,8 millions d'euros pour reproduire des odeurs historiques, comme par exemple l'odeur de la bataille de Waterloo. Vrai ou faux? Vous êtes au courant de tous les projets?
Je sais plus si je dois vous aider maintenant, parce que comme j'ai la loose là...
Vous avez la loose, essayez de gagner plutôt.
Je crois pas, non.
Vous répondez?
Non.
Vous avez perdu.
Oh, ça commence bien ce Queen, c'est vrai.
Stéphane, vous aurez dit des âneries.
Des historiens, des chimistes, des chercheurs unissent leurs talents, et grâce aux témoignages dont on dispose et à l'aide de l'intelligence artificielle, on va créer une encyclopédie des odeurs disparues. On pourra bientôt sentir l'odeur du tabac au XVIe siècle, celle des usines de la révolution industrielle. Le projet s'appelle Odeuropa Il s'achèvera dans 3 ans.
Oui.
Voilà Stéphane. Ah, des fonds qui n'iront pas au patrimoine.
Combien il défend? Non mais...
Il va demander une réallocation des fonds.
Mais c'est scandaleux, non?
Mais pourquoi pas? Ah ben non, c'est sympa.
Quelle nature.
Bah, c'est bien de pouvoir se projeter dans une époque à travers les odeurs. Non, vous trouvez pas? Vous trouvez que c'est nul?
Autant les sons, c'est intéressant.
Autant les sons. Oui, parce que les odeurs du Moyen-Âge aussi.
On n'a pas envie. Dans
les rues de Paris. Est-ce qu'on a vraiment envie de les sentir?
Peut-être pas. Question numéro 2 pour vous, Clémentine. On sait beaucoup de choses sur Beethoven. Mais saviez-vous que ce sympathique compositeur teuton souffrait d'une phobie particulière? Ludwig avait la crainte irrationnelle que sa tête tombe. Et quand il dirigeait un orchestre, il ne pouvait pas s'empêcher de tenir sa tête tout en maniant la baguette. Vrai ou faux?
Alors là, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Il tenait sa tête en dirigeant? Non, écoutez, je n'ai jamais entendu raconter ça, je dis non.
Elle dit non.
Vous avez gagné!
Vous avez gagné, mais pourquoi cette histoire abracadabrantesque si elle n'était vraie quelque part? Ce n'est pas Beethoven qui tenait sa tête, mais Tchaïkovski. Il tenait fermement son menton d'une main tout en agitant sa baguette. D'ailleurs, vous rêvez de passer une soirée avec Beethoven? Rendez-vous ce soir en prime sur France 3, présenté par celui qui a aussi un physique de télé, Secret d'Histoire, avec Stéphane Bern, spécial Beethoven.
Beethoven, oui, 250 ans.
Vous saviez que ce n'était pas lui qui tenait sa tête?
Bien sûr.
Bien sûr. Mais vous savez que pour Tchaïkovski ou pas?
Je ne savais pas pour Tchaïkovski. Voilà.
Je vous ai édifié une fois de plus. Mais question numéro 3.
J'ignorais aussi.
Pour vous, Stéphane. Maurice Chevalier.
Oui.
Prosper, Valentine. Ah, si vous connaissiez ma poule.
Ma pomme, ouais.
Voilà un monument du patrimoine français. Mais saviez-vous qu'Eddie Mitchell a chanté Tout ça, ça fait d'excellents rockers, une reprise de Tout ça, ça fait d'excellents français, un autre tube de Maurice Chevalier. Vrai ou faux? Si c'est vrai, on l'écoute. Si c'est faux, eh ben on l'écoutera pas. Alors.
Alors donc c'est pardon.
Eddie Mitchell,
vous vous souvenez de la chanson de Maurice Chevalier? Tout ça.
C'est une question de musique
historique. Bah, oui. Tu vois, Maurice Chevalier c'est tellement vieux que c'est. On est dans l'histoire et la musique. Si vous, je sais que c'était votre jeunesse. Néanmoins, voilà, Maurice Chevalier qui chante Tout ça, ça fait d'excellents français. C'est une autre époque. Est-ce que Eddie Mitchell aurait chanté Tout ça, ça fait d'excellents rockers?
Je crois pas. Écoutez, ça me paraît fou parce que je connais
sur la même musique.
Ah ben je ne sais pas.
Ça paraît fou.
D'excellents batteurs.
Non, je dirais non. Parce que, de toute façon, Maurice Chevalier est unique.
Découvrons rapidement.
Vous avez gagné.
Vous avez gagné, Stéphane. Eddie Mitchell n'a pas chanté. Il a chanté une très belle chanson sur le Père Noël, Eddie Mitchell. Oui, mais pas, il n'a pas repris Maurice Chevalier. On écoute l'original.
Et tout ça, ça fait d'excellents français, d'excellents soldats qui marchent au pas. Ils n'en avaient plus l'habitude. Mais c'est comme la bicyclette, ça s'oublie pas.
Magnifique. Et si Eddie Mitchell nous écoute, il n'est pas trop tard pour reprendre cette chanson et en faire tout ça, ça fait d'excellents rockers. Question.
En plus, Maurice Chevalier ne protestera pas.
Non, il n'aura pas son mot à dire là-dedans. Question numéro 4, Clémentine. Est-ce que Sacha Guitry a écrit un livre sur son père intitulé « Lucien Guitry raconté par son fils » ou est-ce que Lucien Guitry a écrit un livre sur son fils intitulé « Sacha Guitry raconté par son père » ?
Comme c'était quand même deux très grands vaniteux, j'ai du mal à imaginer que le père ait pu descendre jusqu'à son fils dans sa gloire de qu'il devait considérer comme étant équivalent. En même temps, ça serait tellement plus logique que ce soit Guitry qui écrive sur son père que si ça se trouve c'est le contraire, parce que vous voulez me piéger.
Mais je ne veux pas forcément toujours vous piéger, Clémentine.
Je verrais plutôt Sacha Guitry écrivant sur son père, oui.
Et donc le livre s'appellerait?
Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur Lucien, sans avoir jamais osé le demander.
Vous avez gagné.
Vous avez gagné.
Bravo.
Lucien Guitry, raconté par son fils, un livre de Sacha Guitry. Petite citation de Lucien, c'était avant MeToo, hein, je précise. J'aime les femmes chaudes et le café froid, car l'un et l'autre me permettent de gagner du temps. Très belle citation.
Il l'appelait pas Divan le Terrible, je crois, son père.
Divan le Terrible, c'est pas mal.
Comment osez-vous, dans cette émission, citer des choses aussi indignes, Mathieu Noël?
C'est pas de moi, c'est de Lucien Guitry. C'est pour montrer le changement d'époque, Stéphane.
On peut garder ça sous silence.
C'est pour montrer qu'on a fait du chemin.
Stéphane et moi, nous n'avons pas renoncé totalement à notre.
À quoi donc?
À l'élégance de notre. Oui, voilà, c'est ça. Ah, chapeau! Ah non, mais
victoire en tout cas!
Oui, très belle victoire.
Très belle victoire de Clémentine. Non, c'est une victoire de Clémentine.
Parce que voyez-vous, moi j'ai chuté.
Ah, sur les odeurs de Waterloo, c'est ça, ça sent le crottin de cheval et la poudre à canon. Bon, d'accord.
Alors que moi, je soutiens ce très beau projet Eau d'Europa, que ça soit noté.
D'ailleurs, j'aimerais qu'on prenne ça sur votre salaire.
Pour soutenir. On annule le projet Eau d'Europa. Non, je m'oppose à ce projet, alors. Je m'oppose.
(rire) 16h-18h sur Europe 1, Stéphane Bern et Mathieu Noël. Historiquement vôtre.
Vous êtes au cœur d'Historiquement vôtre, chaque après-midi, l'art de se cultiver sans bouder son plaisir avec un homme qui m'en donne beaucoup, Stéphane. Je suis sûr que derrière le présentateur émérite, star de la télé, visiteur du soir de l'Élysée, quasiment, on peut le dire, en possession des codes nucléaires, vous êtes resté un grand enfant, Stéphane.
Mais vous lisez trop de contes.
C'est possible. Oui. Vous aimez les contes, Stéphane.
J'adore ça,
ça tombe bien. Aujourd'hui, aujourd'hui, on a organisé la rencontre absolument impossible, bien sûr, mais tellement savoureuse entre trois grands auteurs de livres jeunesse.
Oui, oui, Mathieu, c'est vrai. Après Charles Perrault et ses contes, je vous raconte la comtesse de Ségur et ses drames. Et de votre côté, mon cher Mathieu, vous rendrez hommage à une héroïne de mon enfance qui continue à faire parler d'elle. Mais j'avoue qu'elle a pas mal changé, ma copine Martine.
Et c'est vrai, Stéphane, que Martine a changé. Il y a 50 ans, elle était très premier degré. Désormais, de par les parodies dont elle fait l'objet, elle est devenue complètement subversive. Les titres « Martine n'a plus de PQ mais improvise »,« Martine idéalise la perte de sa virginité » sont déjà gratinés. Mais attendez de voir les images. Notez qu'en radio, vous pouvez attendre longtemps.
Eux, ils attendent aussi patiemment, hein, pour nous raconter les origines d'un objet, d'une passion, d'une obsession, d'un plat, et parfois même tout cela à la fois, avec David Castello-Lopez qui nous raconte les origines
d'un canard petit qui ne se mange pas.
Un petit canard qu'on avait tous dans nos baignoires quand on prenait le bain.
Et qui a opéré un virage à un moment.
Comme Martine, en fait.
Voilà, exactement.
Il a cessé d'être un canard moteur, pour enfant. C'est
voilà, exactement. Pour devenir un canard pour dame.
Voilà. Olivier, vous avez l'air...
Encore,
Olivier Pouls.
Ouais, encore une grande enquête. Hein.
Encore une très belle enquête. Mais vous-même, vous avez dû sacrément enquêter pour nous parler aujourd'hui et des bonbons, Olivier. Bah, l'origine
aussi,
des bonbons.
Grand, petit, tout le monde aime ça. Il y en a de plein de sortes. On fera... un petit tour de France d'ailleurs des bonbons les plus originaux et puis je vous donnerai la recette de l'incroyable caramel au beurre salé.
Ben ça c'est le meilleur des bonbons, le caramel au beurre salé. Enfin, le mot de la fin reviendra évidemment à Stéphane Bern qui connaît bien ce mot et cette expression puisque ça lui arrive à peu près tous les jours dans le quiz, faire Fanny.
Mais oui, vous avez déjà fait Fanny aux cartes ou
moi je gagne tout le temps.
On fait Fanny aux boules aussi. En tout cas, je vous dirai d'où ça vient.
Mais tout de suite, plongeons sans attendre dans notre deuxième récit du jour, le portrait d'une femme qui a beaucoup écrit pour les enfants et qui a été, c'est dommage, beaucoup moins parodiée que Martine. Stéphane Bern nous raconte la comtesse de Ségur.
Europe 1, 16h-18h, historiquement vôtre. Stéphane Bern et Mathieu Noël. Le récit.
Nous sommes le 1er octobre 1855. Louis Hachette ne le sait pas encore, mais il vient de signer ce jour-là un contrat juteux. Lui qui a bâti sa fortune sur l'édition de manuels scolaires peut désormais se targuer d'avoir une nouvelle corde à son arc. Le voilà qui se lance dans la littérature jeunesse. Mais il lui faut recruter de nouveaux auteurs pour développer sa collection. Eh bien, c'est chose faite en cette journée d'automne, quand la future auteure, phare de la Bibliothèque Rose, promet de livrer son premier ouvrage. Depuis, la comtesse de Ségur n'a pas cessé d'enchanter ses petits lecteurs grâce aux mésaventures de ses personnages candides. Quand elle écrit ses premiers romans, Sophie de Ségur n'est pas de la première jeunesse, et pour cause, c'est une grand-mère de près de 60 ans qui entame là sa carrière d'écrivain. Pourtant, 5 décennies plus tôt, Sophie Rostopchine aime déjà raconter toutes sortes d'histoires. C'est son terrain de jeu qui alimente son imagination. Il faut dire qu'il est impressionnant. Des milliers d'hectares achetés par son père dans la campagne moscovite. Là-bas, la petite Sophie colle à la légende familiale, mi-sauvage, mi-cultivée, tout comme le chef mongol Gengis Khan, dont elle serait la fidèle descendante. Mais la voilà bien vite arrachée à sa Russie natale pour gagner l'Empire français et épouser un jeune comte. Sauf qu'avec Eugène de Ségur, la lune de miel est de courte durée. Alors Sophie quitte rapidement Paris pour s'installer dans un joli château normand. Au domaine des nouettes, la Russe retrouve pour de bon la verdure qu'elle aime tant. 8 enfants et une flopée de petits-enfants plus tard, la voilà bien à l'aise dans son jupon de percale, prête à prendre la plume. Et ça marche. Puisque Sophie n'a jamais oublié le goût de l'enfance, elle a le don de raconter des histoires aux plus jeunes. Après la signature du fameux contrat, les ventes de ses livres s'envolent. Forte de ce succès, la comtesse se transforme en machine à écrire. Ses petites histoires lui viennent sans effort, si bien qu'elles noircissent en ratures des centaines de feuillets. Voilà de quoi ravir Louis Hachette, bien heureux de publier chaque année 2 à 3 romans signés Ségur. La maison d'édition touche le pactole et la grand-mère reçoit de quoi gâter sa progéniture adorée. Mais ça ne lui suffit guère, alors place à la négociatrice. Notre comtesse compte bien mener une bataille, et pas des moindres, puisqu'elle obtient que son pécule lui parvienne sur un compte en banque à son nom. Oui, c'est une première pour une femme mariée. Sophie de Ségur peut se frotter les mains, son mari Eugène ne se fera pas un centime sur son dos. Plutôt sur ses mains, puisqu'elle écrit. Et c'est une petite revanche, car Eugène est bien gentil, mais ce goujat ne s'est jamais privé d'abandonner sa femme au profit de maîtresses par dizaines. C'est donc une comtesse financièrement indépendante qui livre une vingtaine de romans pour enfants en moins de temps qu'il ne faut pour le dire. Mais où la comtesse de Ségur va-t-elle chercher toutes ces histoires, me direz-vous ? Eh bien, inutile de chercher midi à 14h, elle l'épuise dans ses souvenirs. Car s'il est un adage qu'elle ne cesse de rabâcher, c'est bien l'idée qu'il ne faut écrire que ce que l'on voit. Voyez plutôt. Dans son premier roman, Les petites filles modèles, la comtesse de Ségur relate les aventures de Camille et Madeleine de Fleurville. Eh bien, ces petites héroïnes ne sont autres que les doubles littéraires de ses propres petites filles, Camille et Madeleine de Malaret. Dans le roman, les fillettes vivent au château de Fleurville, soit une description parfaite du château des Nouettes, le refuge normand où la comtesse de Ségur a élu domicile. Dans ce récit, encore, peu de place est donnée aux maris et aux pères, de même que chez les Ségur, Eugène brille par son absence. Quant à Sophie de Réan, la célèbre héroïne des malheurs de Sophie, eh bien, la comtesse assure que c'est une petite fille qu'elle a bien connue dans son enfance. Mais vous l'aurez compris. Pour écrire l'histoire de cette enfant désobéissante qui accumule bêtises et punitions, Sophie de Ségur a ressuscité Sophie Rostopchine. Sophie qui se coupe les sourcils, Sophie qui abîme sa poupée de cire, Sophie qui tue ses petits poissons, Sophie qui se fait mordre par un cheval. Tous ces petits malheurs, Sophie, si elle a 60 ans désormais, les a expérimentés dans sa campagne russe. Et s'il est un personnage fictif qui évoque particulièrement son passé, c'est bien celui de Madame Ficini. Vous savez, cette femme cruelle que l'héroïne a la malchance d'avoir comme belle-mère, il se pourrait que ce soit une copie de Catherine Rostopchine, la mère de la comtesse. Eh oui, même si elle a grandi dans une superbe propriété, la comtesse n'a pas connu une enfance très tendre. Son père l'aimait beaucoup, mais Fiodor fut plus occupé à brûler Moscou à l'approche des troupes napoléoniennes qu'à prendre soin de sa marmaille. Et du côté maternel, c'était une autre paire de manches. Mieux valait éviter d'avoir affaire à Catherine et à sa sévérité légendaire. À la moindre bêtise, Sophie Rostopchine risquait le coup de knout, et oui, un fouet, tout comme son héroïne Sophie de Réan, qui n'en finit plus de subir les sévices de Madame Ficini. Les livres de la comtesse de Ségur ont beau être destinés aux enfants, elle reste fidèle à son credo. On ne tronque pas la réalité. Mais pour son éditeur, les coups de fouet, les gifles et les privations de nourriture, c'est un peu trop dur pour le cœur innocent des marmots. Alors, on n'hésite pas à rogner quelques éléments du récit, quitte à agacer sérieusement la comtesse de Ségur. Il ne faut pas s'y tromper. Les châtiments corporels, elle les condamne fermement. Elle veut montrer les conséquences néfastes qu'ils ont sur les enfants. En réalité, elle distille ici ou là de petits conseils d'éducation aux parents. Et peut-être est-elle même avant-gardiste. En valorisant la liberté de mouvement des enfants, par exemple, n'a-t-elle pas coiffé au poteau Maria Montessori et sa méthode toujours à la mode aujourd'hui ? À vous de juger.
Europe 1, historiquement vôtre.
À nous de juger et à notre invitée aussi, la romancière Marie Desplechin. Bonjour.
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 Vous avez publié un très beau portrait de la comtesse de Ségur. On va en parler. Déjà, pour vous, est-ce qu'elle était avant-gardiste ou pas ?
Par un tas de côtés, oui. Effectivement, au point de vue de l'éducation, elle a éduqué ses enfants très bien, elle était contre les pensions violentes, elle leur a fait l'école à la maison, elle était contre les châtiments corporels, et elle défendait ses droits aussi, comme vous l'avez si bien raconté, elle a demandé ses droits d'auteur, elle voulait signer ses livres de son nom de jeune fille, et à côté de ça, elle était très très réactionnaire au point de vue des mœurs, elle pratiquait un catholicisme qui n'était pas rigolo du tout.
Vous avez consacré un très beau portrait à la comtesse de Ségur, dans l'une et l'autre. C'était un livre paru il y a quelques années dans lequel six écrivaines d'aujourd'hui racontaient six auteurs d'hier, des auteurs qu'elles admirent et qui leur sont proches. Pourquoi elles ? En quoi, Marie Desplechin, vous vous sentez proche de la comtesse de Ségur ?
Bien sûr, parce qu'elle écrit pour les enfants et puis parce qu'elle les aime vraiment, sincèrement, on le sent dans ses livres et quand on lit l'histoire de sa vie, ça le confirme. Et j'aime beaucoup l'histoire de cette femme qui commence à écrire sur le tard. En fait, dès qu'elle en a l'occasion, elle se précipite comme si elle avait attendu ça toute sa vie et elle se réalise, ça lui fait une nouvelle vie. Je trouve que c'est une histoire qui est vraiment à laquelle on a tous et toutes envie de s'identifier, cette multiplicité des vies. On l'a tous lu, enfin vous aussi j'imagine, quand vous étiez petit. C'est amusant de penser qu'elle a formé des générations et des générations de Français. Elle les a formés à certaines histoires et aussi à une manière d'écrire qui est vraiment très jolie. C'est-à-dire que je conseille à tous les adultes qui en auraient le temps, hein, ils vont retrouver les livres, et ça marche toujours auprès des enfants d'aujourd'hui, de se replonger dans cette langue qui est une langue très claire, très gourmande, et qui donne envie d'écrire.
C'est quoi au fond sa plus grande modernité à la comtesse de Ségur ? C'est le style qu'elle a inventé ? C'est dans le message qu'elle transmet ?
Au moment où elle commence à écrire, ce qui est extraordinaire, c'est qu'elle raconte des vraies histoires de la vie. C'est-à-dire que son premier livre est un livre de contes merveilleux qu'elle avait sous le coude, en fait. Elle l'avait écrit pour ses petits-enfants et sitôt, celui-là publié, elle raconte, comme vous le disiez, des histoires de sa propre enfance et des choses qu'elle a observées sur ses enfants. Et elle en fabrique ses histoires, donc elle va dérouler, et c'est avec ses souvenirs, son vécu. Et tout ça, c'est un caractère de vérité qui n'a pas pris une ride quand les enfants d'aujourd'hui le lisent ou quand vous le lisez et que vous pensez aux enfants. Et ça, c'est vraiment tout à fait nouveau. Parce qu'avant, les histoires destinées aux enfants étaient très souvent mythologiques ou merveilleuses. Et là, d'un seul coup, on rentre dans la modernité, en fait, la modernité du roman. Et ça, ça n'a pas bougé. Hein. Depuis, on fait toujours la même chose.
Il y a un point commun avec la comtesse de Ségur, c'est que vous aussi, vous êtes reconnue dans la littérature jeunesse, notamment pour vos personnages de Verte, puis Pomme et Mauve, ou vos portraits de jeunes filles du 19e, La Capucine, pour citer la dernière. Vous venez d'ailleurs de recevoir un nouveau prix décerné depuis l'an dernier, le prix de la Grande Ourse, qui récompense une auteure qui marque durablement la littérature jeunesse. Quand on marque justement durablement, ça veut dire qu'on est là depuis longtemps. Vous avez commencé, Marie Desplechin, bien avant que la comtesse de Ségur ne soit mise à sa table de travail. Je crois qu'elle a commencé, elle avait 57 ans exactement, fou, hein. Elle était grand-mère, elle n'avait plus d'enfants ni de petits-enfants à élever, et c'était le début d'une seconde. En fait, elle sortait d'une dépression, en fait.
Elle a eu une très profonde dépression parce que c'est vrai que la vie a été assez contrariante de quitter la Russie, son père qu'elle adorait. Elle a très peu revu sa famille. Quand elle arrive avec un homme dont elle est certainement profondément amoureuse, mais qui aime un petit peu tout ce qui passe, et qui la laisse avec ses gosses et ses garçons qui sont obligés de partir en pensionnat alors qu'elle adore ses enfants. Et oui, elle va être au point de plus pouvoir parler, de plus sortir de sa chambre pendant des années. Et il est très probable que le fait de pouvoir écrire et tout ça, toute l'énergie va ressortir. J'adore la comtesse, c'est l'histoire de cette femme, parce que c'est une leçon pour nous tous, et c'est comme si elle était morte et renée plusieurs fois. C'est vraiment une super bonne histoire.
Dans sa carrière d'écrivain aussi, comme vous l'écrivez, tout n'est pas rose. Hein. Les illustrateurs sabotent ses livres, les imprimeurs mélangent ses épreuves, son nom qu'on tronque, son argent qu'on vole, sans oublier les corrections de son éditeur qu'elle a du mal à accepter. Malgré le succès, ça n'avait pas l'air simple pour elle. Elle était respectée ou bien elle l'est devenue avec le temps, finalement ?
Elle était respectée. Elle avait des amis. Je pense à Louis Veuillot, par exemple, qui l'a beaucoup poussé à écrire, qui était un journaliste, alors très, très, très conservateur et écrivain de l'époque, assez influent. Donc, elle avait des amis influents. Elle n'était pas toute seule. Elle avait un très gros caractère, ce qui va sûrement avec sa dépression, d'ailleurs. Il faut prendre en compte aussi qu'elle était la filleule du tsar. Donc c'était quelqu'un qui fallait pas trop lui marcher sur les pieds non plus, parce que sinon ça faisait des histoires. Et quand elle se lance dans l'écriture, comme c'est vraiment son truc à elle, elle va se pourrir la vie avec les correcteurs, et comme elle est no limite, si vous voulez, il y a des choses, les censeurs, les cheveux se dressent sur leur tête, donc évidemment ils font des coupes là-dedans, ils essaient de rendre ça à peu près possible, et ça fait des histoires, tu sais, elle les engueule, quoi. C'est pareil sur les droits, au départ elle part avec un certain tarif, puis elle voit que ses livres partent comme des petits pains, donc elle veut être augmentée, elle voulait s'appeler Rostopchine sur la couverture de ses livres, mais non, on lui donne son nom de femme mariée, donc elle exige de l'avoir à l'intérieur. Elle est très marrante parce qu'elle ne lâche rien. alors qu'elle n'est pas du tout féministe, par exemple. Enfin, ce qu'on met derrière le féminisme aujourd'hui, ça lui est totalement étranger. Par exemple, elle trouve que George Sand, ça ne va pas du tout, cette femme qui se balade en pantalon, qui a des histoires avec tout un tas de types, ça ne lui va pas du tout. Donc vous voyez, c'est moi je trouve ça assez touchant, en fait, ce côté contradictoire dans la personne. C'est très humain.
Sauf qu'elle n'a pas connu l'amour, c'est un peu dommage.
Elle l'a connu, mais visiblement, il était volage.
Oui. Voilà. Voilà, c'est ça. Je pense qu'elle a dû profondément l'aimer, et lui ne la détestait pas, hein, comme les hommes de cette époque. Voilà, il avait Bobonne à la maison, et c'est lui qui suggère à Hachette de donner du travail à sa femme, qui est à Sophie, qui s'ennuie à la campagne.
Ah oui, donc c'est quand même lui qui est un peu à l'initiative, même si c'est un goujat, il est quand même un peu à l'initiative de la comtesse de Ségur.
Je pense que ça devait pas être c'était un cavaleur, il était polygame comme un tas de bons hommes, et spécialement à l'époque.
Mais ça nous choque. Hein. En tout cas, merci beaucoup Marie Dupéchin. Je rappelle le livre dans lequel apparaît votre portrait de la comtesse de Ségur, l'une et l'autre, aux éditions L'Iconoclaste. Et votre dernier livre à vous, c'est La Capucine, troisième volet de vos portraits de jeunes filles du 19e siècle. Et ben, ça tombe bien, hein. C'est pile le siècle de la comtesse de Ségur, c'est pas un hasard. Merci beaucoup d'avoir été avec nous.
Merci à vous.
Ici Europe 1.
16h-18h sur Europe 1. Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Aujourd'hui dans Historiquement vôtre, on évoque les auteurs pour enfants qui ont enchanté nos chères têtes blondes et les brunes aussi. Après Charles Perrault et la comtesse de Ségur, Mathieu, vous nous brossez le portrait à 99% vrai d'un personnage, une petite fille blonde emblématique de la littérature jeunesse. C'est incontournable qu'elle a été victime de nombreux détournements, plutôt comiques d'ailleurs. C'est Martine.
Et oui, comme la moustache, comme les prénoms Rosalie, Jules et Léon, comme les platines vinyles, les suites oversize, les chansons d'Ottawan, le pâté en croûte et vous-même Stéphane, Martine fait partie de ces choses qui étaient ringardes et qui du jour au lendemain, comme par enchantement, sont subitement devenues cool. La raison, eh bien à un moment, tu deviens tellement désuet, tellement obsolète, tellement daté...
Mais vous plaisantez ?
Non, je ne parle plus de vous là Stéphane. Oui. Que vous devenez vintage. Et là, avec Martine, on est dans l'essence du vintage, avec cette petite blondinette à couette qui nous renvoie au temps béni où les enfants encore purs rêvaient juste de rentrer vite à la maison pour aider leur gentille maman à préparer une bonne blanquette de veau. Une enfance française, monsieur, avec des mots simples qui en plus serviront plus tard aux jeunes filles dans la vie. Lessive, casserole, cuisine, balai. En termes de facilité d'accès, Martine est beaucoup plus simple à lire que Mary Poppins.
Super calice. Califragilistisex.
Oui, avec Martine, on n'est pas dans la fantaisie, la loufoquerie anglo-saxonne, on est dans le concret. Comme dans le tome 12, Martine et son ami le moineau, rebaptisé par les indélicats Martine doit un piaf, où la petite sauve un oisillon en lui donnant des graines. Alors oui, on cherchera en vain une dimension subversive aux aventures de Martine. Créée en 1954, à une époque où un personnage comme celui de Titeuf aurait certainement envoyé son auteur Zep en tôle, c'est un condensé de mièvrerie dans un monde où tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, celui de la France de René Coty. Martine, c'est une petite fille de 10 ans qui grandit peu et à qui il arrive toutes sortes d'aventures incroyables. Martine dans la forêt. Martine va déménager. Martine se déguise. Martine à la mer. Martine fête son anniversaire. On peut parler de saga à suspense relatif. Non, dans le monde de Martine, il ne se passe rien de dingue et c'est justement ce qui est rassurant pour les enfants qui ont besoin de se sentir en sécurité. Surtout les plus craintifs d'entre eux. C'est par exemple avec Martine que David a découvert la littérature.
Je trouve que l'écriture, voilà, c'est vraiment une invention super.
Oui, il était déjà faillot à 6 ans. Et fasciné par le personnage espiègle de cette petite blonde à la culotte si blanche et aux joues si roses qu'à mon sens, la question de l'eczéma se pose quand même et qu'au lieu d'aller à la plage ou faire du cheval, un numéro de Martine chez le dermato eût été plus utile. Ce qui plaît également, c'est l'univers Martine. Il y a des personnages secondaires et on pense évidemment d'abord à son chien Patapouf qui a des répliques drôlissimes. On pense aussi à son chat Moustache qui lui aussi a de la répartie. Sans parler de ses frères Jean et Alain, de son ami Nicole et surtout de son copain Ludovic qui semble glisser une main sous sa jupe dans Martine fait un pique-nique. Est-ce une illusion d'optique ? Peut-être. C'est le problème des couvertures de Martine. Chacun y voit ce qu'il veut. Moi, par exemple, qui ai été éduqué en pension chez les jésuites... Mon œil est chaste et lorsque je regarde la couverture de Martine et les copains, je ne vois qu'une sage petite fille roulée dans l'herbe avec deux garçons rieurs. Mais je sais, car j'ai lu sur les forums, que d'autres exégètes moins chastes que moi ont une autre analyse devant cette image.
Oui, mais il paraît qu'ils mettent un doigt.
Oh, c'est fou ce que certaines personnes ont l'esprit mal tourné. Mais parole, Stéphane, mais vous êtes possédé par le démon, hein ? Essayez de regarder ça avec vos yeux d'enfant, comme cette magnifique couverture champêtre où Martine joue aux billes avec Ludovic derrière un buisson.
Je crois qu'il baisait.
Mais certains, vous voyez, sont hermétiques à la poésie martinienne. Oh, tant pis pour eux. En tout, 60 albums ont été publiés entre 54 et 2014. Une centaine de millions d'exemplaires se sont vendus dans une trentaine de pays où Martine a changé de nom. Elle est tantôt Anita, Tini, Debbie, Maya, Marika ou encore Marie. Bizarre pour une petite française, me direz-vous. Je vous dirai pire, car c'est l'heure d'une révélation choc qui mérite un orchestra hit. Martine n'est pas française. Martine est belge. Ces créateurs, Marcel Marié et Gilbert Delahaye, sont des compatriotes de Pulse. Et si je ne vous l'ai pas dit plus tôt, c'est que je voulais bien marquer la différence avec un numéro de On ne la raconte. Il faudra d'ailleurs aussi que je songe à changer le titre que j'avais donné au web pour le podcast de ma chronique « Deux messieurs belges et une petite fille en culotte courte ». Évitons les amalgames, évitons. D'autant que Gilbert et Marcel ont dû, dès les années 80, faire face à une levée de boucliers. Des critiques relisent Martine et l'accusent d'être rétrograde, sexiste, mettant en scène un univers bourgeois dans ses préoccupations. Raymond Perrin, qui a signé un ouvrage de référence sur la fiction enfantine au XXe siècle, l'écrit sans détour, Stéphane, Martine est mièvre et moralisatrice. Comment Martine mièvre? Et pourquoi pas Tintin au Congo raciste tant qu'on y est? Foutu bien pensance. Le dessinateur raconte son drame depuis l'affaire du trou. Tenez Pouls Fête, le dessinateur de Martine.
Je ne peux même plus observer les enfants dans les parcs publics. Pourtant, les enfants sont mes modèles.
Si j'étais ton avocat, c'est pas la ligne de défense que je prendrais. La goutte d'eau, c'était dans l'épisode tragique de Martine est malade. Où la pauvre fille prend froid à force de jouer dans la neige en jupe, ce qui n'est pas très futé. Là, c'est trop. Hein. Dès l'album suivant, Martine se convertit au pantalon, puis même dans les années 2000, au jean. Marcel, le dessinateur, a l'argument massu concernant les soi-disant « good luxe » de Martine, je le cite.
« On nous dit « Martine est bourgeoise, elle fait du cheval, alors que le cheval n'est même pas à elle, il est à son oncle
!» Marcel 1, la polémique 0. Souci, une autre polémique surgit, Martine serait raciste.
« On pense encore à toi !»
En cause, l'album « Martine en voyage », rebaptisé par les malicieux « Martine, rien à battre du Covid », où elle se fait porter ses bagages par son amie africaine qui ne porte pas du tout un nom caricatural puisqu'elle s'appelle Cacao. Marcel, une explication ?
« Oh là non !» J'avais d'abord pensé à Banania, mais Casterman me l'a retoqué.
Rassurez-vous Stéphane, devant le tollé, car quand même c'était chaud.
Cacao.
Oui, non. L'ouvrage a été retiré de la vente, puis réédité avec les dessins d'origine. Cacao s'appelle désormais Annie, plus politiquement correct. Mais on va pas se mentir, malgré tous leurs efforts pour moderniser Martine, on reste loin de l'univers de Virginie Despentes. Le mieux, c'est de faire comme moi, de vous régaler des parodies de Martine. Créez votre propre couverture de Martine en lui faisant dire n'importe quoi, et d'ailleurs maintenant possible via un site internet. Martine apprend à faire du vélo, il devient Martine à 3 grammes. Martine fête son anniversaire, devient Martine et son premier space cake. Il y a aussi celui où on la voit caresser un écureuil, intitulé « Martine veut un menton en vison ». Ou encore cette couverture où elle pouponne un bébé, et le titre « Martine cherche le congélateur ». D'ailleurs, je lance notre jeu Martine à Europe 1. Toi aussi, réinvente un titre de Martine en rapport avec historiquement vôtre. Par exemple, moi, j'ai pris le Martine a oublié son parapluie, où on voit Martine terrifiée, prenant la tête dans ses mains en sortant de la classe. Je l'ai rebaptisé « Martine a vu Castello Lopez rôder autour de l'école avec son grand impère ».
C'est pour qui la grosse friandise ?
À vous de jouer ! Vous nous envoyez votre Martine sur
merci
le site d'Europe 1.
Merci beaucoup Mathieu. C'était à 99% vrai, il y a donc 1% de faux.
Oui, alors les citations, quand ils se défendent, non, elles sont toutes vraies sauf une. Hein. Il n'avait pas pensé d'abord à Banania pour le personnage qui s'appelle en fait Cacao, ça c'est moi qui l'ai...
Vous m'avez fait dire un mensonge.
Oui, on c'est pas le premier, hein,
non, le dernier.
16h-18h sur Europe 1, Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Vous écoutez Historiquement vôtre, l'émission qui chaque après-midi dépoussière l'histoire avec David Castello-Lopez. Chaque jour, l'origine d'une invention ou d'un objet.
Tout à fait. Je pense, on le disait en introduction, je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'objets qui font le pont entre l'enfance et l'âge adulte de façon aussi totale que le canard en plastique jaune, qui est quand même, hein, on le disait, un jouet pour réveiller les nourrissons et aussi un jouet porno pour dame toute seule. D'ailleurs, à ma connaissance, je pense qu'il n'y a pas d'autre exemple d'un toy normal qui soit aussi un sextoy. C'est vraiment comme si la pâte à modeler, c'était aussi du Poppers, vous voyez, ou qu'une corde à sauter Hello Kitty était marketée comme un accessoire de bondage, ou que la dictée magique, au lieu de vous demander des plaies cheval et bicyclette, et vous demander des plaies fellation et cunilingus.
Oh non,
c'est chelou.
Oui, c'est très
bien. La magie de Noël avec David Castello-Lopez.
Alors, je vous dis tout de suite, c'est pas quelqu'un qui s'est dit, tiens, si je faisais un jouet pour enfants que les dames pourraient aussi utiliser. Ça a d'abord été...
C'est comme ça dans vos histoires. Hein.
On a dévoyé un jouet.
Ça a d'abord été un jouet uniquement pour enfants, un jouet qui date de la fin du 19e siècle et qui a été rendu possible par l'invention du caoutchouc vulcanisé. Voilà.
Vulcanisé.
J'ai pas parfaitement compris que
on l'a trempé dans un volcan, on a fait quoi dans
la... J'ai pas tout à fait compris ce que c'était que la vulcanisation. Il y a du soufre. Voilà, je sais qu'il y a du soufre à un moment. Mais disons que le caoutchouc, à l'état naturel, c'est bien, mais pas top. Parce que, par exemple, ça résiste pas super bien à l'eau et ça devient cassant quand il fait froid. Mais la vulcanisation, ça le rend waterproof.
et super stable. Et ça a permis de faire, par exemple, des gommes pour effacer les crayons, les élastiques, les tuyaux d'arrosage, les pneus, mais aussi les canards jaunes pour enfants.
Plus important.
Mais attention, les premiers canards, ils ne flottaient pas. C'était des canards durs qui étaient plutôt faits pour que les bébés les mâchent, voyez, ou les chiens. C'était pas, ils flottaient pas encore.
Les bébés ou les chiens.
Les bébés ou les chiens.
Mes chiens ont des canards jaunes.
C'est vrai.
Ouais. Et ils les mâchouillent.
Voilà. Mais à partir des années 40, ils ont commencé à être fabriqués en plastique, ce qui leur a permis de flotter et de devenir une façon très utile d'attirer les enfants dans le bain. Alors, c'est pas très bien qui c'est qui a dessiné ce canard originel. Il y a un sculpteur américain qui s'appelle Peter Gain qui a déposé le design d'un canard flottant qui ressemble à celui qu'on connaît en 1949. Mais l'une des choses qui a fait que ce canard a eu du succès, c'est l'émission Rue Sésame aux États-Unis qui a sorti une chanson sur le canard jaune pour le bain en 1970. On écoute un extrait.
Rubber ducky, you're the one. You make bath time lots of fun.
Voilà. Mon canard en caoutchouc, tu es celui qu'il me faut. Tu rends l'heure du bain vraiment amusante. Alors, bien sûr, il s'agit ici d'un amusement innocent.
Oui.
Le virage équivoque à cette époque-là n'a pas encore eu lieu. Et ça amène donc la question de quand date ce virage. Je vous dis, j'ai passé 2 heures à essayer de dater ce virage du canard en caoutchouc avec certitude, mais j'ai échoué. Le plus probable, d'après tout ce que j'ai pu lire et qui correspond aussi à ce dont je me souviens, c'est que le premier canard porno, eh bien, c'est celui de Sonia Rykiel, qui a sorti une version sextoy en 2002. Et l'une des idées de Sonia Rykiel, c'était d'avoir un sextoy déguisé en objet anodin. Parce que si vous avez, par exemple, le moulage du sexe de votre amant sur une étagère, eh bien, il faut penser à le faire disparaître quand les invités arrivent. Alors que là, non. Ça, bah, c'est un canard en plastique, je vois pas ce que c'est quoi le problème. Mais le problème, c'est que maintenant, c'est tellement connu, le fait que le canard en plastique, c'est un sextoy, que c'est le contraire qui se passe.
Oui.
C'est le canard pour bébé qui est soupçonné d'être un sextoy. Et je sais pas si c'est une bonne chose pour l'humanité, ça, vous voyez. Je vous avoue quand même, j'ai un petit peu étudié la question, et je pense que j'ai réussi à déterminer de façon assez fiable, en un coup d'œil, si on a affaire à un canard pour enfant ou à un canard pour adulte. Le canard pour enfant, dans la plupart des cas, il regarde droit devant lui. Vous voyez, c'est un canard comme ça qui regarde droit devant. Alors que la grande majorité des canards porno, ils tournent la tête sur le côté, un peu comme s'ils étaient en train d'aguicher un autre canard qui se trouvait à leur droite.
Ne regardez pas comme ça.
C'est très inquiétant.
Il se passe des trucs entre nous. Peut-être, je sais pas pourquoi, ils lui ont fait tourner la tête. Il a un air coquin et je pense que c'est peut-être pour une question de prise en main, je sais pas. Alors depuis, j'ai vu quand même qu'il y avait d'autres jouets pour enfants qui avaient révélé leur côté obscur.
Ah bon ?
Il y a des vibromasseurs Hello Kitty.
Mais je
pensais pas aussi, c'est bien dire. Il y a des ours en peluche qui vibrent. Donc je pense qu'il va falloir s'y faire. Voilà, il y a des tournants équivoques de chaque jouet de notre enfance.
Incroyable.
Les canards de vos chiens, ce sont bien des canards.
Ils regardent droit devant.
16h, 18h sur Europe 1, Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
On apprend toujours à nos enfants de ne jamais accepter les bonbons d'un inconnu. Mmh. Moi, j'ajoute, si c'est Pulse, tu cours. Tu cours le plus vite possible. Olivier Pulse, vous nous racontez l'origine des bonbons.
Tu te sers d'abord et après tu cours.
Ah oui, ça, c'est plus malin.
Alors, les bonbons, c'est quelque chose qui se confond pratiquement avec l'histoire de l'humanité parce que dès 600 ans avant Jésus-Christ, dans la Perse antique, on se régalait d'un produit qui était issu d'un roseau. Et ce qu'on appelait le roseau à miel, qui faisait un produit sucré tel que le miel, alors qu'il n'était pas pollinisé. Du temps des Romains, on utilisait le miel et on les trempait dans des fruits secs pour faire des petites friandises. Mais c'est vraiment avec l'arrivée de la canne à sucre. En un premier temps, il faut rappeler que le sucre de la canne à sucre a longtemps, au temps du Moyen-Âge, été utilisé comme vertu médicale. Il était vendu par les apothicaires d'ailleurs. Et c'est vers le 15e siècle qu'il devient vraiment une gourmandise et qu'on va commencer à voir petit à petit arriver les friandises et les bonbons tels que nous les connaissons. Les premiers dont on parle s'appellent les épices de chambre. Ce sont des petites graines de gingembre ou des petits pignons de pin ou de cannelle qui sont enroulées dans du sucre et qui sont rissolées, des petites gourmandises à croquer comme ça. Et puis arrive évidemment le développement de la canne à sucre, ça se démocratise.
Mais c'est pour les enfants ou c'est pour les adultes?
C'est plutôt pour les adultes et c'est même un produit extrêmement cher, réservé au roi et à la cour. Mais ensuite, la canne à sucre va commencer à se démocratiser. On va arriver aussi à la production de betteraves sucrières en France au 19e siècle. Et puis, dans toutes les grandes régions de France vont naître des spécialités locales. Et alors, je vous ai prévu un petit jeu, si vous avez 2 secondes. Où trouve-t-on le coussin, par exemple?
À Lyon.
Bonne réponse, à Lyon.
Tiens, les pâtes d'amande fourrées
de ganache. Où trouve-t-on les patates?
Excuse-moi, c'est quoi un coussin?
Alors c'est une pâte d'amande qui est fourrée de ganache au chocolat avec du curaçao.
Du curaçao.
Oui. Qui touche le curaçao à Lyon. Les patates.
Les patates.
C'est où ça?
Les patates à Saint-Malo, c'est des petits bonbons en forme de pomme de terre avec de l'amande, du kirsch et du cacao. Il n'y a pas de pomme de terre dedans.
Il y a quand même beaucoup d'alcool dans vos bonbons pour les enfants.
C'est vraiment une
excusez-moi,
c'est
mais
alors un qui n'en a pas, la bergamote.
Ah bah oui, ah, le Nancy.
La bergamote de Nancy. C'est très bon.
Très bon, les petites bergamotes.
Arrive l'industrialisation et 1920, la création d'une marque mondiale que tout le monde connaît, Haribo. Marque créée en Allemagne par un certain Hans Riegel, et le nom Haribo, savez-vous d'où il vient?
Bah, Hans Riegel, quelque chose.
Et Bonn, parce qu'il est originaire de Bonn.
L'ancienne capitale.
Oui, je vous en prie, oui.
Voilà.
C'est vrai que vous avez fait Sciences Po, c'est vrai.
Mais oui, vous tournez à l'oublier, j'ai l'impression, Stéphane. Mon côté bouffon prend le dessus.
J'ai votre bio qui est là, affiché sur mon écran.
Et le premier bonbon qu'il lance et qui va faire, évidemment, le début de sa fortune, c'est le petit ourson en gelée. Alors là, c'est vraiment l'univers des enfants, même s'il les a lus en manche. Mon bonbon préféré, je sais pas quel est le vôtre, mais c'est le caramel mou.
Moi aussi. Franchement, à Biarritz, je sais pas si vous connaissez, il y a une confiserie qui fait ses bonbons caramel au beurre salé, mais c'est à perdre la tête.
Je ne les connais pas, et si d'ailleurs
vous voulez nous en envoyer
quelques exemplaires, on les goûterait avec plaisir.
Stéphane a tenté une pub, mais elle n'a pas réussi.
Je vais vous dire ça.
Je vous donne une petite recette de caramel mou hyper rapide et hyper facile. Il vous faut 250 g de sucre, 100 g de beurre, demi-sel, 80 g de crème liquide et une toute petite pincée de fleur de sel. Vous allez faire fondre le sucre assez lentement. Bon, pour réaliser un caramel dans votre casserole, il faut monter la température à 180 degrés. Vous avez aujourd'hui des petits thermomètres faciles de cuisine. Vous montez à 180 degrés. Vous ajoutez ensuite doucement la crème tiède. On retire du feu. On ajoute le beurre coupé en petits morceaux, la petite pincée de sel. Et ensuite, on coule ça, alors soit dans des petits moules individuels en silicone ou alors dans un plat qu'on aura recouvert de papier sulfurisé pour le laisser redescendre en température. C'est à ce moment-là qu'il va se solidifier. Et puis, il n'y aura plus qu'à le couper en petits morceaux. Et vous avez des caramels mous hyper faciles.
Pour toute la famille et sans alcool. C'est important de le préciser.
Sans alcool,
en ce qui vous concerne,
cela,
Olivier.
Bien sûr.
On ne fourre jamais les caramels avec de l'alcool. Stéphane s'était lancé dans une recherche sur Google.
Les caramels mous de la reine Nathalie de Serbie, c'est chez Mirmont, à Biarritz. Je ne comprends pas, ils ne sont pas arrivés.
On n'en a pas encore reçu.
C'est bizarre. Là, il devrait déjà en arriver pour qu'on puisse vérifier les dires de Stéphane, voir si c'est si bon que ça.
C'est vraiment
ces
bon.
Ces petits bonbons au caramel.
Il y a Dodin aussi, c'est une autre adresse à Biarritz. Mais on va les deux font de très bons caramels mous. Je pourrais en donner un troisième, si vous voulez, pour diversifier notre approvisionnement.
Écoutez, à tous les producteurs de caramels mous de France, en tout cas, on pourrait lancer une grande compétition.
Nous goûterons et nous trancherons.
Voilà.
16h, 18h sur Europe 1. Stéphane Bern et Mathieu Noël. Historiquement vôtre.
Au moment où, avec Stéphane, on s'est réparti les tâches dans cette émission, je dois dire que je ne me souviens plus comment on avait tranché la question de savoir qui présenterait le mot de la fin. L'explication quotidienne d'une expression de la langue française. Car, quand j'ai dit à Stéphane, mais enfin, pourquoi c'est toi qui hériterais forcément de cette rubrique? Il m'a répondu...
Mais c'est moi qui présente l'Eurovision.
Il dit qu'il voit pas le rapport, mais ok Stéphane, alors c'est toi le mot de la fin.
Je sais pas si vous êtes amateur de jeux de cartes ou peut-être de jeux de boules, Mathieu.
Les deux, mon capitaine.
Mais il y a dans les deux cas une hantise, c'est finir la partie en faisant fanny. Comprenez, ne marquez aucun point alors que votre adversaire a gagné.
Bah normalement, il y a une autre humiliation, c'est fanny au comptoir. Celui qui finit la partie avec zéro paye son coup à boire ensuite.
Ça sent le vécu.
Oui.
Eh bien, incroyable, fanny a bel et bien existé. Dans les années 1860, dans le quartier de la Croix-Rousse, à Lyon, c'est un des hauts lieux de la boule lyonnaise, une jeune fille d'à peine 20 ans, fille d'un couple tenant une herboristerie, se proposait de consoler les personnes malheureuses au jeu en leur montrant ses fesses, moyennant une petite pièce. En souvenir et en l'honneur de Fanny, dans de nombreux sports et jeux, l'expression est restée. Et pour joindre le geste à la parole, on apportait souvent un poster ou une carte postale représentant une femme calipige, dévêtue, appelée Fanny, qu'il fallait, en cas de lourde défaite, embrasser sur son postérieur. Sur la photo, on pouvait souvent lire « Pour avoir, joueur maladroit, manqué de touche, tu devras au meilleur endroit poser ta bouche ». Ça rime. Ce qui est étonnant, c'est que bien avant la vraie Fanny, on trouve la même coutume au Moyen-Âge. Au XIIe siècle, dans une chanson, il est question du comte Turgibus qui, ayant perdu deux batailles de suite, reçoit un gage humiliant, oui. Je cite, « baiser le cul de la vieille ». Oui, je ne pensais pas qu'un jour je pourrais la radio.
Tout est possible dans Historiquement Vôtre.
C'est historique, oui.
Ouais,
dernière info essentielle, Fanny en américain désigne...
Hey. Les fesses.
Ou quand la culture et nos coutumes françaises s'exportent au-delà de nos frontières. Cocorico.
Bon ben j'ai perdu.
Comment ça vous avez perdu?
J'ai perdu, je veux bien accepter le gage.
Vous, ça vous arrange de perdre. Notre numéro spécial, Belles histoires pour les enfants, s'achève. Nous connaissons désormais la vie de ceux qui ont consacré la leur aux enfants. Charles Perrault, la comtesse de Ségur, sans oublier cette petite friponne de Martine. Et ça m'a permis d'utiliser cet extrait sonore de Stéphane, qui n'avait pourtant rien à voir, je peux l'avouer maintenant, avec l'enfance, puisqu'il était issu d'une VHS de sa collection privée intitulée « Soirée cheminot et grosse locomotive ».
Tchou, tchou, tchou.
Que de souvenirs, enfin surtout pour lui, on y était pas. Quel auteur pour enfants vous a le plus étonné, Stéphane ?
Écoutez, j'ai bien aimé, surtout avec le récit de Marie Desplechin, l'histoire de la comtesse de Ségur.
À la fois moderne et...
Oui, et puis très conservatrice aussi dans l'éducation des enfants, oui.
C'est vrai. Êtes-vous en mesure de donner le programme de demain, Stéphane ?
Oui, demain, ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants. Oui, c'est la suite des contes de fées. Oui.
C'est la deuxième partie.
Deuxième partie. On réunit la reine, l'impératrice Marie-Thérèse d'Autriche, qui a eu 16 enfants. Ça fait beaucoup de cadeaux à Noël. Hein. Et la célèbre danseuse et reine du musical, Joséphine Baker, qui, elle, en a adopté 12.
C'est beaucoup, c'est vrai, mais c'est rien comparé à mon nouveau Hollandais préféré. Il s'appelle Ed Hoeben. Il était puceau jusqu'à 34 ans et il s'est bien rattrapé parce qu'il a plus d'une centaine d'enfants aujourd'hui.
Vous êtes sûr de vous, Mathieu ?
Plus que jamais, vous verrez. À demain, les amis. À demain, Stéphane.
À demain, Mathieu.
Retrouvez Historiquement Vôtre tous les jours de 16h à 18h sur Europe 1 et en podcast sur Europe 1.fr.